De l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 12 août 2014, en direct de Washington. Au micro, Bagassi Koura et Morgan Guirec. Bonsoir Morgan.
Bonsoir Bagassi, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, le nombre de victimes de l'épidémie d'Ebola a dépassé le cap des 1000 morts et l'OMS donne son feu vert pour l'usage de traitements expérimentaux.
En République centrafricaine, les leaders religieux appellent l'ex-coalition Seleka à revenir sur sa décision de ne pas entrer au prochain gouvernement.
En Côte d'Ivoire, l'opposition fait son entrée dans la commission électorale indépendante installée hier.
Donc ce n'est que la première étape. L'étape suivante, c'est l'étape de la négociation.
Vous entendrez tout à l'heure Pascal Afingessa, président du FPI. Et comme chaque jour, en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
Face à la propagation du virus Ebola, l'OMS a donné son feu vert pour l'usage de traitements expérimentaux. Le dernier bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique est passé à plus de 1000 morts. Le point avec Lola Akomachri.
Le comité d'experts réuni par l'OMS a donné son accord pour l'usage de traitements expérimentaux. Ces traitements seront utilisés à titre préventif et potentiellement pour la guérison. La priorité sera donnée aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis vont envoyer au Libéria un sérum expérimental disponible en très faible quantité pour traiter les médecins infectés. Ce sérum a été utilisé sur deux malades rapatriés aux États-Unis, dont la missionnaire américaine Nancy Redball, qui semble se porter mieux. Par contre, le missionnaire espagnol Miguel Parares, âgé de 75 ans, est décédé à Madrid des suites de l'Ebola. Il était traité avec le sérum américain expérimental ZMAP. Hier, la société pharmaceutique américaine qui a élaboré le ZMAP a indiqué qu'elle avait expédié la totalité de son stock en Afrique de l'Ouest.
La RCA se prépare à célébrer ce 13 août le 54e anniversaire de son indépendance. Dans son adresse à la nation, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a appelé les Centrafricains à adopter un comportement responsable. Idriss Fall.
La présidente a dressé un bilan sombre de toutes ces années depuis l'indépendance. Pour Catherine Samba-Panza, les indicateurs sont au rouge et elle a appelé les Centrafricains à l'adoption d'un comportement responsable.
Pour que notre indépendance soit une réalité, nous devons sans relâche nous investir pour amener la paix. Nous devons apporter tout le soutien nécessaire aux forces internationales venues nous aider dans notre quête de paix. L'indépendance est un acte de renaissance nationale. C'est pourquoi je réitère mon attachement indéfectible à l'unité de la République centrafricaine, une et indivisible.
Au plan politique, les consultations se poursuivent en vue de la formation du prochain gouvernement. Le nouveau Premier ministre Mahamat Kamoun a indiqué hier que son équipe comptera toutes les sensibilités. Dans ce sens, le bureau local de l'ONU appelle à la formation rapide d'un gouvernement de large ouverture.
Des épouses des militaires nigérians ont manifesté aujourd'hui à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Des centaines de femmes étaient réunies devant les portes d'une base militaire. Elles espèrent empêcher le départ de leurs maris mobilisés pour combattre Boko Haram et dénoncent leur sous-équipement face aux groupes islamistes.
En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a été officiellement installée hier à Abidjan à l'issue d'une audience de prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. Les 17 membres étaient tous présents, y compris les représentants de l'opposition qui avaient jusque-là boudé. Pascal Afingessa, le président du FPI, le principal parti d'opposition, explique ce changement de position.
Nous avons posé un acte de bonne volonté en désignant nos représentants sur la base de la promesse de l'accord que le bureau de la CEI sera mis en place de façon consensuelle. C'est-à-dire que c'est un bureau qui satisfera les attentes de tous les acteurs. Donc c'est sur la base de ce principe, de cette promesse, de cet accord que nous allons. Donc ce n'est que la première étape. L'étape suivante, c'est l'étape de la négociation pour obtenir le consensus.
Voilà, c'était Pascal Afinguessan, le président du FPI.
Nouvel assassinat politique en Libye. Selon l'AFP, le chef de la police de Tripoli, le colonel Mohamed Al-Souissi, a été tué par des inconnus cagoulés et armés dans la banlieue de la capitale.
Les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU sont en visite au Soudan du Sud. Ils menacent les belligérants de sanctions en cas de poursuite de la guerre civile. Samantha Powers, ambassadrice américaine à l'ONU, a mis en garde ceux qui sabotent le processus de paix et qui violent de façon flagrante les droits de l'homme.
Mozambique, d'après l'AFP, le gouvernement et la RENAMO, principal parti d'opposition armée, sont prêts à cesser les combats. Ils se sont entendus sur les termes d'un accord de paix et qui mettrait fin à presque 2 ans d'accrochage.
La loi anti-homosexualité en Ouganda, annulée pour des raisons de procédure par la Cour constitutionnelle, va être soumise à nouveau à un vote des députés. C'est ce qu'a annoncé la présidente du Parlement. La Cour constitutionnelle ougandaise l'avait déclarée le 1er août nulle et non avenue. Cette loi insistait sur la répression de l'homosexualité.
Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé avoir produit ses premiers lots de traitements contre le paludisme fabriqués à partir d'une forme semi-synthétique de l'artémisinine. Plus de 1,7 million de traitements vont être expédiés dans les prochains mois vers le Burkina Faso, le Burundi, la RD Congo, le Libéria, le Nigeria et le Niger.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté le nouveau premier ministre irakien Haïdar al-Abadi à former un gouvernement dès que possible et a promis plus de soutien à l'Irak dans sa lutte contre les djihadistes du groupe État islamique Jack Aristide.
En déplacement en Australie aux côtés de son collègue de la défense Chuck Hagel, le chef de la diplomatie américaine a plaidé pour un gouvernement d'union en Irak représentant les principales communautés chiites et sunnites, de même que les minorités comme les Kurdes. Pour John Kerry, il s'agit de l'une des conditions sine qua non pour un élargissement de l'aide politique, économique et militaire pour sortir le pays de la grave crise qu'il traverse, notamment après l'offensive lancée en juin dernier par les insurgés sunnites de l'État islamique. Ils se sont emparés de larges pans du territoire irakien.
What we're really looking for here is a way to support Iraq.
John Kerry a toutefois été catégorique, les États-Unis n'enverront pas de troupes au sol. Nous ne réintroduirons pas de forces combattantes américaines en Irak. C'est une lutte que les Irakiens doivent livrer au nom de l'Irak, a conclu le secrétaire d'État américain.
Les négociateurs israéliens et palestiniens poursuivent leur pourparlers de paix au Caire. L'objectif, c'est de transformer la trêve de 72 heures en paix durable. Israël exige la sécurité pour ses ressortissants. En face, les Palestiniens demandent la levée du blocus de la bande de Gaza.
Et ici aux États-Unis, la petite ville de Ferguson dans le Missouri a été le théâtre pour une deuxième nuit consécutive de manifestations suite à la mort d'un adolescent noir non armé tué par un officier de police. Michael Brown, 18 ans, a été tué samedi à Ferguson, ville de 21 000 habitants dans le Missouri.
Un convoi humanitaire russe de 280 camions est en route vers l'Ukraine pour apporter une aide aux populations victimes des combats dans l'est du pays. Kiev a prévenu qu'il refuserait l'entrée de ce convoi.
Le célèbre acteur américain Robin Williams a été retrouvé mort hier à son domicile en Californie. Et selon les autorités, il s'agirait d'un suicide. Il avait 63 ans. Des détails avec Nathalie Barge.
Le bureau du shérif local explique que Robin Williams a été retrouvé mort par le personnel d'urgence qui a été appelé à son domicile dans le comté de Marin. Les secouristes pensent qu'il est mort par asphyxie, mais la cause exacte du décès est toujours sous enquête. Son sponsor a affirmé qu'il était dépressif depuis longtemps. Dès le début de sa carrière, il était dépendant de l'alcool, de la drogue et a lutté durant de nombreuses années contre la toxicomanie. Robin Williams a fait ses débuts dans le show télévisé de la chaîne ABC, Mork & Mindy. Il est rapidement passé au grand écran et a été primé plusieurs fois, notamment pour ses rôles dans Good Will Hunting, Mrs. Doubtfire, Good Morning Vietnam et Le Cercle des Poètes Disparus. Robin Williams était revenu au petit écran l'an dernier. Il était un ami proche de l'acteur et musicien John Belushi, mort d'une overdose en 1982. Robin Williams avait déclaré que ce drame était l'un des facteurs qui l'avait poussé à sortir de l'enfer de la drogue.
C'est aujourd'hui la journée mondiale des éléphants. On estime qu'il y en a 5 000 en Afrique. Dans les années 1980, ils étaient 1,2 million.
Voilà pour le journal au micro Bagassi Kouraï, Morgan Guirec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique.
Verra-t-on des éléments de l'ex-coalition Séléka dans le prochain gouvernement centrafricain? Les responsables du mouvement, eux, ont annoncé qu'ils ne veulent pas entrer dans le gouvernement de Mahamat Camoun. Et les leaders religieux tentent de les convaincre de revenir sur leur décision. Le point avec Thierry Mbomba à Bangui.
L'archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalainga et l'imam Kobin Layama ont lancé un vibrant appel à l'endroit de la Séléka qui, après la nomination de Mahamat Camoun comme premier ministre, ont menacé de ne pas participer au prochain gouvernement. Pour l'archevêque Nzapalainga, il est ici question de donner une chance au nouveau premier ministre.
Chaque centrafricain aspire à la paix après consultation, ce qui demande à ce que les uns et les autres nous puissions enterrer nos haches de guerre, arrêter aussi les guéguerres ou bien encore les disputes. Le moment est venu pour que les uns et les autres nous puissions tous, comme un seul homme, apporter notre contribution. On vient de nommer une personne. Sur l'opposition de principe, ça va encore retarder nos souffrances. Et donc le moment est venu pour qu'on conjugue nos volontés, aussi aspirer à la paix.
Quant à l'imam Kobin Layama, président de la communauté islamique de Centrafrique, il demande à la Séléka de taire les intérêts particuliers s'il y en a et d'apporter leur contribution pour le développement de la RCA et de promouvoir le vivre ensemble entre les Centrafricains.
Ce qui nous doit vraiment nous préoccuper ou bien nous prédominer, c'est l'esprit centrafricain. C'est l'intérêt de notre pays, l'intérêt de tous les Centrafricains de vivre ensemble, de toutes les communautés centrafricaines. C'est ça qui doit nous préoccuper, c'est ça qui doit vraiment nous gagner. Donc même si on avait des idées ou bien des intérêts partisans, personnels, nous devons surmonter ces intérêts, revoir vraiment le vivre ensemble des Centrafricains, chercher à éteindre le feu qui est en train de brûler notre maison, qui est la République centrafricaine, que de vraiment de nous replier sur nous-mêmes et abandonner le frère centrafricain, faire le chemin à seul. Nous devons faire ce chemin ensemble pour l'intérêt de notre pays.
Bangui, Thierry Bomba pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
L'Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert pour l'utilisation de traitements non homologués pour les malades du virus Ebola. Mais ce sérum, qui est toujours à un stade expérimental, est-il prêt pour une utilisation à grande échelle? Lola Okomachiri a joint par téléphone depuis Paris le professeur Christian Hervé. Il est directeur du département d'éthique médicale et de médecine légale de l'Université de Paris-Descartes.
La prise de décision elle-même apparaissait, je dirais, presque évidente, puisque vous avez une mortalité de 50 à 90% d'après les statistiques. C'est évident que le rapport bénéfice-risque plaidait totalement pour que un tel sérum soit, expérimenté. Quand je dis le mot expérimenté, là on est dans une indication compassionnelle, puisqu'on n'a pas eu en définitive d'éléments méthodologiques qui nous permettent de dire qu'à l'avenir il n'y aurait pas de conséquences. Bien sûr, c'est ce à quoi, bien entendu, chacun pensera, d'où l'importance ensuite de suivre ces personnes dans les différentes symptomatologies qu'ils peuvent avoir.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent de cobayes par rapport au fait qu'on soit très peu avancé dans le développement du sérum et qu'il y a déjà eu un décès, notamment le prêtre espagnol qui a déjà bénéficié de ce sérum-là?
C'est vrai que normalement, les différents médicaments doivent être méthodologiquement bien organisés et qu'il y ait des preuves. Là, nous sommes devant une urgence. Donc ce n'est pas une expérimentation, c'est un secours. C'est comme ça qu'il faut le prendre, ce qui n'empêche pas que des recherches soient faites, bien entendu. Donc là, on peut comprendre. Mais par contre, ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est traiter en urgence, cette crise et ne pas prendre en, on compte en définitive toutes ces maladies infectieuses qui maintenant dans le monde risquent de s'étendre jusqu'à des épidémies, des pandémies avec les moyens de communication que nous avons. Bien entendu, nous avons à réfléchir.
Mais professeur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'Afrique est prête à faire face aux effets secondaires par rapport à l'introduction de ce sérum-là?
C'est bien ce que vous êtes en train de me dire. N'y a-t-il pas un manque en définitive, à la fois peut-être de moyens, mais aussi de moyens humains, de personnes habilitées qui théoriquement, en termes de santé publique, devraient s'investir plus avant avec des financements qui seraient en rapport. Là, il y a une véritable politique publique, une interrogation éthique de santé publique sur les politiques publiques qui ne peuvent être actuellement qu'internationales.
Voilà, c'était le professeur Christian Hervé, directeur du département d'éthique médicale et de médecine légale de l'Université Paris-Descartes.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, l'Afrique peut-elle stopper le tueur Ebola? Les malades africains pourront-ils accéder aux traitements expérimentaux testés sur des patients occidentaux? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Ce 12 août est la journée internationale de la jeunesse. À l'heure où la planète est encore déchirée par de nombreux conflits, les jeunes ne sont pas épargnés par cette violence qui chasse des familles entières de leur maison, voire de leur pays. Pour marquer cette journée, centrée cette année sur la santé mentale, l'OIM a lancé une vidéo intitulée « Letter from a Refugee » qui présente des témoignages poignants de jeunes Syriens réfugiés au Liban. Nathalie Barge a demandé à Christiane Berthiaume, porte-parole de l'OIM, de nous parler des jeunes déplacés par les conflits armés sur le continent africain.
Il y a beaucoup à dire et la tâche est énorme parce que c'est difficile d'essayer d'aider, de réconforter des gens qui ont vécu et qui vivent des traumatismes. Donc bien sûr qu'on essaye de faire le plus possible, mais ce n'est pas évident, surtout dans des situations de conflit. On parle juste de Tripoli où effectivement en ce moment, qui connaît les combats les plus importants depuis la chute du régime de Kadhafi, c'est très difficile pour les humanitaires de rejoindre les personnes qui sont touchées par le conflit, on arrive à peine à leur fournir un peu d'aide physique, alors quand on parle de l'aide psychologique, c'est encore plus difficile. Mais là, en ce moment, on a justement, on essaye d'aider plus particulièrement les organisations non gouvernementales sur place qui, effectivement, ciblent leur travail dans l'aide psychosociale. C'est pareil un peu partout dans tous les conflits. Pour nous, il y a deux aspects. Il y a toujours l'aspect comment faire pour que les gens qui vivent dans des camps vivent dans des conditions qui soit quand même relativement bonne, quand je dis relativement bonne, parce que c'est jamais vraiment l'idéal, mais aussi tout l'aspect psychologique est aussi très important.
Donc le programme que vous avez au Liban, notamment pour que ces jeunes femmes se reconstruisent et apprennent à réintégrer une vie sociale normale, est-ce que vous avez le même type de programme dans certains pays d'Afrique?
Oui. On a ce même type de programme un peu partout, là où il y a des conflits et là où il y a un besoin. Nous avons ces programmes, effectivement. Quel que soit le conflit, que ce soit au sud du Soudan, République centrafricaine, en Libye en ce moment, ou en Somalie, ou encore, je pense, à ces migrants qui quittent les côtes de la Corne de l'Afrique et qui essaient de passer en Arabie Saoudite par le Yémen et qui sont dans des conditions déplorables. Tous ces gens ont besoin d'aide pour pouvoir se sentir quand même mieux et surmonter les épreuves.
Christiane Berthiaume, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, était jointe à Genève, en Suisse.
Voilà, l'UNICEF vient de se pencher sur la démographie mondiale et les conclusions du rapport Génération 2030 sont frappantes. La démographie enfantine en Afrique va connaître des bouleversements d'une ampleur inédite d'ici 35 ans. L'Afrique aura enregistré 2 milliards de naissances et ce sont 4 habitants sur 10 qui vivront en Afrique d'ici la fin du siècle. Timingo est spécialiste en politique sociale et économique pour l'UNICEF. Et elle a participé à l'élaboration du rapport.
On a vraiment un basculement du poids démographique mondial vers l'Afrique qui se profile dans les 30-50 années à venir. D'ici la fin du siècle, en fait, 4 habitants sur 10 sur la planète Terre vivront en Afrique. Et ce basculement du poids démographique des différentes régions du monde se fait vers l'Afrique. Donc le poids relatif entre l'Asie et l'Afrique est en train de changer. Aujourd'hui, le continent le plus nombreux, le plus peuplé, c'est l'Asie. Mais c'est en train de changer de manière extrêmement rapide.
Et le pourcentage des enfants sera également très important.
L'Afrique est un continent le plus jeune au monde. Les enfants représentent, les enfants de 0 à 18 ans, représentent plus de 50% de la population dans la majorité des pays en Afrique aujourd'hui. Mais c'est une tendance qui va continuer sur les 35 prochaines années jusqu'à 2050. Et c'est le seul continent où la croissance démographique est telle que la population va rester majoritairement jeune. Donc si on prend les enfants et les jeunes, à peu près presque 2/3 de la population fait partie. Soit des enfants, soit des jeunes de moins de 35 ans.
Une partie de ce rapport aussi s'arrête sur la survie de ces enfants.
Oui, alors l'espérance de vie en Afrique, elle a augmenté sur les 50 dernières années. Aujourd'hui, en moyenne, l'espérance de vie pour une personne qui vit en Afrique est de 58 ans. Mais cette espérance de vie reste considérablement inférieure à ce qui est possible dans le reste du monde. Elle est de 12 ans plus courte que la moyenne mondiale. Par contre, cette espérance de vie commence à augmenter beaucoup plus rapidement. Donc, même si l'espérance de vie augmente, majoritairement, c'est un continent qui va rester très très jeune, avec 50% aujourd'hui de la population qui a moins de 18 ans dans un nombre important de pays du continent africain. Et ça va rester comme ça dans les 30-35 prochaines années.
Voilà, c'était Timine Go, spécialiste en politique sociale et économique pour l'UNICEF, jointe par Claire Morin-Jibour. Allez, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports et j'accueille Félix Yepassis Zembrou. Bonsoir Félix.
Bonsoir Bagassi.
On commence par du football et un transfert.
Oui, le gardien de but espagnol Diego Lopez du Real Madrid est arrivé en renfort au Milan AC. Le site internet du club italien qui a rapporté ce mardi la nouvelle a précisé que le joueur passait les visites médicales.
Et le milieu offensif international espagnol David Silva lui a prolongé son contrat avec Manchester City.
Oui, il y restera jusqu'en juin 2019 selon le club champion d'Angleterre. Silva, 28 ans, était arrivé en 2010 de Valence chez les Citizens avec lesquels il a remporté 2 titres de champion, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue. Avec 23 sélections au compteur, il faisait partie du groupe espagnol éliminé au premier tour du Mondial au Brésil.
Et en basketball, Steve Ballmer est officiellement le nouveau propriétaire des Los Angeles Clippers.
Oui, la NBA a indiqué dans un communiqué qu'un tribunal californien avait confirmé la validité de la vente pour 2 milliards de dollars négociée par Shelly Sterling, l'épouse de Donald Sterling, suspendu à vie pour racisme.
Il faut dire que c'est pas une petite somme. Hein.
Eh ben non, la Biélorusse Victoria Azarenka en tennis, Vagassi, tenante du titre, a déclaré forfait pour le tournoi WTA de Cincinnati, ici aux États-Unis. Azarenka, 25 ans, souffre d'une blessure au genou droit depuis le tournoi de Montréal où elle avait atteint les quarts de finale. La numéro 10 mondiale devait affronter la Tchèque Barbora Zalavova-Strikova et sera remplacée dans le tableau final par l'Allemande Mona Bartel. Voilà, Bagassi.
Voilà, merci à Félix Yepassis Zembrou pour les sports.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Le mariage de Papa Wemba a eu lieu le 9 août 2014 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Icône de la musique congolaise et africaine, le chanteur né Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba, et dont la réputation musicale a franchi tous les continents, avait annoncé il y a quelques semaines qu'il mettrait fin à sa vie de concubinage pour épouser la mère de ses enfants. On écoute Papa Wemba dans Yolele.
N'allez pas la lande, elle a pas la pisse à tena lingua, n'a pas bien bon, n'a pas ta motema, sans moi,
changing all of the stations.
Washington, on écoutait Maps de Maroon 5.
Voilà, donc c'est tout donc pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Ici, c'était Bagassi Koura
et Morgane Guiriec.
Voilà, on se retrouve dans une demi-heure pour plus d'informations. Place maintenant dans quelques secondes aux nouvelles avec Jean-Roger Billon.